Vous écoutez On lit pour vous.
L'économie des petites épiceries, un texte de Gina Smialek du New York Times, paru le 3 mars 2024 dans la presse. Les clients des magasins d'alimentation remarquent quelque chose de singulier. Des sacs de croustilles remplis d'air, des boîtes de soupe rétrécies, des paquets de détergents réduits. Les entreprises réduisent la taille de leurs produits sans réduire leur prix et les messages des consommateurs, de Reddit à TikTok, en passant par la section des commentaires du New York Times, dégoulinent d'indignation face à cette tendance, connue sous le nom de réduflation, shrinkflation. Cette pratique n'est pas nouvelle. Les vendeurs réduisent discrètement leurs produits pour éviter d'augmenter les prix depuis des siècles, et les experts pensent qu'il s'agit d'une stratégie d'entreprise évidente depuis au moins 1988, lorsque Chuck Fuller-Knotts avait réduit sa boîte de café d'une livre à 13 onces et que ses concurrents l'ont imité. Mais aujourd'hui, l'indignation est vive. Le président Joe Biden a tiré parti de cette angoisse dans une vidéo récente. Ce qui me met le plus en colère, c'est que les cartons de crème glacée ont en fait diminué en taille, mais pas en prix, a-t-il déploré. Les entreprises elles-mêmes dénoncent cette pratique par des astuces marketing. Une chaîne canadienne a dévoilé une pizza Growflation, en langage de pizza, dit le communiqué de presse de l'entreprise, une plus grande pointe. Mais comment fonctionne la shrinkflation d'un point de vue économique? Est-elle plus fréquente aux États-Unis et, si c'est le cas, cela signifie-t-il que les données officielles ne rendent pas compte de l'ampleur réelle de l'inflation? Voici une explication de cette tendance et de ce qu'elle implique pour votre portefeuille. La réduflation a été généralisée en 2016. C'est peut-être difficile à croire, mais la réduflation semble moins fréquente aujourd'hui qu'il y a quelques années. Le gouvernement ajuste les données officielles sur l'inflation pour tenir compte de la réduction de la taille des produits et les collecteurs de données qui surveillent les ajustements de taille ont relevé moins de cas de réduction de la taille des produits ménagers et des produits d'épicerie en 2023 qu'il y a quelques années. La réduction de la taille des produits était fréquente en 2016, lorsque l'inflation globale était faible. Elle est devenue plus rare après le début de la pandémie en 2020 et, plus récemment, elle a commencé à revenir au niveau d'avant la pandémie, ont déclaré les analystes du Bureau of Labor Statistics, Bureau des statistiques du travail. Les économistes ont noté que l'ensemble des produits mesurés a quelque peu changé au fil des ans, ce qui fait des comparaisons dans le temps, une approximation plutôt qu'une science exacte. Mais pour certains produits, l'ampleur est plus extrême aujourd'hui. Même si les réductions ne sont pas aussi fréquentes, la réduflation a aujourd'hui un impact important dans quelques catégories clés, notamment les sucreries, les détergents et le papier hygiénique. De 2019 à 2023, la réduflation a ajouté environ 3,6 points de pourcentage à l'inflation pour des produits tels que les essuie-tout et le papier hygiénique, contre 1,2 points de pourcentage de 2015 à 2019. Ces dernières années, la réduflation a également contribué plus fortement à l'augmentation des prix des bonbons et des produits de nettoyage. Pour les grignotines, la diminution des tailles a ajouté 2,6 points de pourcentage à l'inflation, ce qui correspond à peu près à leur contribution entre 2015 et 2019. Le gouvernement n'a pas encore publié d'analyse sur la contribution de la réduflation à l'inflation globale de 2019 à 2023. Si la réduflation est mesurée, ce n'est pas le cas de la séraphinflation. La réduflation elle-même est prise en compte dans les données officielles sur l'inflation, mais une autre force sournoise qui coûte cher aux consommateurs n'est pas prise en compte dans les statistiques. Les entreprises utilisent parfois des matériaux moins chers pour réduire les coûts, une pratique que certains appellent la déqualification ou séraphinflation, skimpflation en anglais. Cette pratique est beaucoup plus difficile à mesurer pour le gouvernement. Si votre rouleau d'essuie-tout coûte le même prix, mais que vous obtenez moins de feuilles, la réduflation, cela apparaît clairement comme une augmentation du coût unitaire qui s'ajoute à l'inflation officielle. Si votre rouleau d'essuie-tout est de la même taille, mais qu'il est soudainement fabriqué dans un matériau de moins bonne qualité, séraphinflation, le gouvernement ne l'enregistre pas comme de l'inflation. En fait, les produits alimentaires et ménagers en général ne sont pas directement ajustés pour tenir compte des changements de qualité autres que la taille et le poids, ont déclaré les statisticiens du gouvernement. Par conséquent, si la marque de vos plats surgelés commence à utiliser de l'huile végétale au lieu de l'huile d'olive, ou si votre emballage auparavant refermable perd sa fermeture à glissière, cela n'aura pas d'effet sur les chiffres. Les entreprises agissent ainsi parce que cela fonctionne. Les entreprises choisissent de réduire la taille de leurs produits plutôt que de les vendre plus cher pour une raison simple. Les consommateurs sont souvent plus attentifs au prix qu'aux tailles. Lorsque la quantité diminue, les gens pourraient le remarquer, mais souvent, ils ne le remarquent pas, a déclaré John Gourville, professeur à la Harvard Business School. Il n'y a pas de choc des prix. Un exemple célèbre est celui de Danone, qui vendait ses yogourts dans des contenants plus grands que ceux de son concurrent Yoplait, 8 onces contre 6. Les consommateurs étaient convaincus que le yogourt de Danone était plus cher et ne comprenaient pas qu'il y en avait simplement plus dans le contenant. Finalement, selon M. Gourville, l'entreprise a cédé et a réduit son emballage. Les ventes de yogourts Danone, qui ont baissé immédiatement après la réduction de la taille, ont depuis rebondi, a rapporté le Times en 2003. Et Danone empoche désormais un bénéfice plus important sur chaque pot de yogourt qu'elle vend. Pourtant, les consommateurs pourraient s'y opposer. Lorsque les entreprises ne s'intéressent qu'à leurs bénéfices et non à leurs consommateurs, certains experts en prix craignent qu'une contraction persistante de l'inflation ne fasse fuir les acheteurs. Lorsque les coûts des matières premières augmentaient et que l'inflation faisait la une des journaux, les consommateurs comprenaient très probablement que les entreprises devaient répercuter une partie de ces augmentations. Il se peut même qu'ils aient préféré des produits plus petits à des prix plus élevés, ont déclaré plusieurs experts. Mais aujourd'hui, l'inflation globale s'est ralentie. Après avoir culminé à 9,1% en juillet 2022, elle est retombée à 3,1% en janvier. Et les consommateurs pourraient être moins enclins à accepter la réduflation maintenant que les entreprises sont confrontées à des pressions moins fortes sur les coûts, en particulier parce que les bénéfices des entreprises alimentaires ont été, et dans de nombreux cas restent, élevés. C'était « L'économie des petites épiceries », un texte de Gina Smialek du New York Times, paru le 3 mars 2024 dans la presse.
Décès de Serge Fizette, défenseur de la sculpture québécoise, un texte de Catherine Lalonde, paru le 2 janvier 2025 dans Le Devoir. D'abord potier et céramiste, Serge Fizette, né en 1944, est rapidement devenu un des grands défenseurs de la sculpture québécoise. Il est décédé le 30 décembre 2024 à 80 ans. Co-fondateur et longtemps directeur de la revue Espace Sculpture, la première au Canada consacrée à cet art, M. Fizette fut tour à tour commissaire, éditeur, écrivain et co-fondateur de l'événement trisannuel Artefact à Montréal de 2001 à 2007, qui a donné une impulsion nouvelle à l'art public éphémère. Souvenir d'un homme discret. Serge Fizette a travaillé toute sa vie pour donner une plus grande place à cet art de la sculpture, qui était à l'époque mésestimé, résume la sculptrice Joëlle Morosoli. Son mérite a été de la revaloriser. Réservé, M. Fizette était un personnage très généreux, qui passait facilement de la pratique à la théorie, et souvent dans cet ordre pas habituel des choses, rappelle le critique d'art Gilles Déniaud. Il commencera, par exemple, à écrire sur la sculpture avant de devenir historien de l'art. « C'était un fou d'écriture et d'édition », commente M. Déniaud. Serge Fizette reprendra et détournera le bulletin du Conseil de la sculpture du Québec, un feuillet de quelques pages, pour en faire en 1984 la revue Espace Sculpture, aux côtés de Joëlle Morosoli et d'Édouard Lachapelle. C'était la toute première revue consacrée exclusivement à la sculpture et la seule à l'époque dans tout le Canada, explique Mme Morosoli. Il faut se rappeler que la revue a été lancée alors que la peinture domine encore complètement dans la foulée du refus global, explique le collègue au Devoir et spécialiste en art visuel Nicolas Mavrikakis, qui a travaillé à la revue et auprès de M. Fizette. Le marché et les historiens de l'art défendaient davantage la peinture, et Fizette arrive alors en rappelant ce que la sculpture et les installations apportent d'intéressant, poursuit-il. Dans un monde pré-Internet, Espace Sculpture et ses 4 numéros par an étaient une plateforme visuelle rare pour une multitude de sculpteurs, un des seuls lieux où leur travail pouvait être vu, ajoute Mme Morosoli. Ça a été aussi un lieu important pour de nombreux historiens de l'art. Serge Fizette a été directeur de la revue jusqu'à la toute fin de 2013. Rebaptisé en 2014 Espace Art Actuel, la publication sort désormais 3 fois par année. Poser des sculptures dans le milieu du chemin. Écrivain polygraphe, Serge Fizette a signé quelques recueils de poésie aux heures bleues et le livre Symposium de sculpture au Québec, 1964-1997. Il s'est toujours intéressé aux super minorités, résume Gilles Déniaud. Chez les sculpteurs, déjà minoritaires dans les arts, il met en lumière les femmes, par exemple, en écrivant La sculpture et le vent, Femmes sculpteurs au Québec, en 2004. S'y trouvent 15 artistes, dont Micheline Beauchemin, Françoise Sullivan, Kozik et Eva Brand. C'était très important, ce livre. L'imaginaire de la sculpture demeurait réducteur. Le métier était vu comme un métier d'homme parce que la sculpture, c'est lourd, résume Nicolas Mavrikakis. Plus récemment, M. Fizette a publié L'homosexualité masculine au Québec, de la Nouvelle-France à nos jours, publié chez Québec-Amérique en 2021. Mais son idée de génie, selon Gilles Déniaud, qu'il a eue sur le tard, alors qu'il était très soucieux de la diffusion des arts, ça a été de se demander « et si on amenait plutôt les sculptures vers les gens ?» En choisissant des lieux parmi les plus fréquentés de Montréal, comme le canal Lachine, le Mont-Royal, le site d'Expo 67 et en invitant d'abord 10, puis une douzaine et enfin une vingtaine de sculpteurs à y installer leurs œuvres, il créait toute une rencontre avec le public, croit M. Déniaud, qui a été commissaire d'artefacts 2001, 2004 et 2007, avant que l'événement ne cesse ses activités par manque de financement public. Pour la consultante en art public Francine Laure, qui était à l'époque la directrice du Bureau d'art public de Montréal, l'apport d'artefacts a été remarquable. Ça a été le premier lieu à offrir une possibilité d'expérimentation de l'art public éphémère, contrairement à l'art public pérenne, où l'artiste doit alors répondre à une commande, à des contraintes, gagner un concours. Lors de l'édition sur le Mont-Royal, les artistes choisissaient leur emplacement et leur parcours, parfois les plus improbables. Louise Vigée a suspendu une œuvre faite de 4000 bréchets de poulet dans un arbre. André Dubois a travaillé avec une fente qui se trouvait dans le parc. L'événement offrait ainsi une liberté de création, de matériaux, de liens avec le lieu d'exposition et avec différents publics absolument rares, selon la spécialiste. Serge Fizette a aussi cofondé l'ouvrage numérique « Dictionnaire historique de la sculpture québécoise du XXe siècle ». C'était « Décès de Serge Fizette, défenseur de la sculpture québécoise », un texte de Catherine Lalonde paru le 2 janvier 2025 dans Le Devoir.
Conjuguer féminisme, religion et spiritualité, un texte d'Adèle Surprenant, paru le 12 décembre 2024, dans la Gazette des femmes. Dans un Québec où domine le culte de la laïcité, peut-on se dire féministe et religieuse? La quête spirituelle est-elle vouée à devenir une affaire d'État? Ou peut-elle s'accorder à la liberté? Regard croisé. Pour Océan, Dieu est une évidence. Difficile de faire autrement dans une famille dévouée à l'Église protestante évangélique. Son enfance et son adolescence sont ainsi partagées entre l'école religieuse fondée par ses parents, les activités parascolaires auprès de sa communauté et la messe du dimanche. Avec l'âge adulte, viennent l'indépendance et les questionnements qui l'accompagnent. Sur son orientation sexuelle, son identité de genre, mais aussi sur les violences sexuelles dont il a été victime dès l'enfance. J'avais besoin de comprendre pourquoi ça arrive et comment on fait pour grandir avec ça, se remémore-t-il, insatisfait et en colère contre les réponses alors fournies par l'Église. Débute ainsi un long chemin vers la déconversion qui mène Océan vers de nouvelles évidences, à commencer par son engagement féministe. Revendiquer sa place sans se faire prier. Si son parcours l'a éloigné de la foi, Océan ne croit pas pour autant que religion et féminisme sont incompatibles. La Bible a été écrite dans un contexte patriarcal, mais ça ne veut pas dire que Dieu est misogyne, schématise-t-il, précisant qu'il s'agit d'abord d'une question d'interprétation. Il se dit d'ailleurs sincèrement reconnaissant envers les personnes féministes et chrétiennes, mais admet ne pas avoir la force de porter ces discours-là dans l'Église et de manger la violence qui vient avec. Militante de longue date pour l'accession des femmes aux différents ministères, y compris la prêtrise et l'épiscopat, Marie-Andrée Roy comprend le scepticisme de certaines féministes par rapport au fait de pouvoir obtenir quoi que ce soit de l'Église catholique. Tout en se disant entièrement féministe et entièrement chrétienne, elle refuse de se subordonner à l'autorité de l'institution religieuse. Il ne suffit pas de revendiquer, il faut procéder. Pour vivre notre vie spirituelle, nous n'attendons pas le jour où nous allons avoir l'autorisation, affirme la professeure en sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, co-directrice du Réseau québécois en études féministes, RÉQUEF, et membre de la collective L'Autre Parole. vivre une vie spirituelle en tant que féministe, amène à relire le message évangélique, mais aussi à développer d'autres styles de célébration qui permettent d'exprimer notre expérience comme femme, se réjouit-elle. Défaut de solidarité. Mais l'engagement féministe et chrétien dépasse largement les murs de l'Église, assure Marie-André Roy. Celle-ci rappelle que des groupes féministes et chrétiens, comme L'Autre Parole, qui est membre de la Fédération des femmes du Québec, ont contribué aux différents combats féministes qui ont traversé la province, de la lutte contre les violences conjugales à celle pour le droit à l'avortement. Sur un autre front, des femmes se sentent pourtant bien seules. Tous les féminismes religieux ne sont pas traités de la même façon, regrette Leïla Benhadjoudia, professeure agrégée à l'Institut d'études féministes et de genre et à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. On l'a vu avec la loi 21, qui ciblait principalement les femmes musulmanes, poursuit-elle, rappelant que, lors de son adoption en 2019, la loi sur la laïcité de l'État, statuant notamment sur l'interdiction du port de signes religieux, est soutenue par un certain nombre de féministes québécoises. À mon avis, les féministes devrait être extrêmement inquiète de voir que l'État régit une loi pour dicter aux femmes comment s'habiller, commente la professeure. Au Québec, comme partout en Occident, où règne un climat globalement islamophobe, Leïla Benhadjoudia soutient que le féminisme musulman résonne encore comme un oxymore pour plusieurs. Les femmes musulmanes sont encore vues comme aliénées par leur religion, leur culture, comme des femmes qui ont besoin d'être sauvées, regrette-t-elle. Émancipation. En cause, le regard colonial encore posé sur les femmes et les féministes musulmanes, mais aussi autochtones ou noires, souligne Leïla Benhadjoudia. Le colonialisme aurait, selon elle, imposer une sorte de distorsion, un rapport extrêmement problématique avec la spiritualité ou les religions, alléguant notamment une incompatibilité avec le fait de vivre une vie féministe. Le féminisme religieux se doit de transcender les frontières des différentes confessions, voire de se penser à l'extérieur des grandes religions monothéistes pour épouser d'autres formes de spiritualité. À l'inverse, la professeure considère la spiritualité comme un espace d'émancipation, de libération et comme une donnée fondamentale dans la question de la justice. Le féminisme musulman serait, d'après elle, un territoire de libération, même si elle craint que cela reste inaudible dans les sociétés occidentales, du fait de la colonialité. Selon Marie-André Roy, le féminisme religieux se doit de transcender les frontières des différentes confessions, voire de se penser à l'extérieur des grandes religions monothéistes pour épouser d'autres formes de spiritualité construites à partir de notre relation à la nature, des relations qu'on développe avec les autres humains, ou par notre manière de célébrer tout ça, cite-t-elle à titre d'exemple. Le spirituel, comme le féminisme, est appelé à se vivre dans les institutions autant qu'à l'extérieur de celles-ci. De son parcours avec la foi, Océan retient, quant à lui, une grande leçon d'émancipation. Croire en Dieu permet une certaine audace, un univers de possibles qu'il élargit désormais auprès de sa nouvelle communauté choisie. C'était « Conjuguer féminisme, religion et spiritualité », un texte d'Adèle Surprenant, paru le 12 décembre 2024 dans la Gazette des femmes.
En En position pour bien dormir. Un texte de Jean-Philippe Arcan, paru le 12 janvier 2025 dans la presse. C'est un débat vieux comme le monde. Quelle est la meilleure position pour dormir? Chacun a sa préférée ou sa petite idée sur le sujet. Pour en avoir le cœur net, nous avons posé la question à Joseph de Koninck, professeur émérite de psychologie à l'Université d'Ottawa, spécialisé dans l'étude du sommeil. Position fœtale. Il n'y a pas beaucoup de circulation possible puisqu'on est tout tassé. Il est aussi peu probable d'atteindre un sommeil profond rapidement dans cette position. Il est difficile d'envisager que quelqu'un pourrait passer toute la nuit recroquevillé ainsi. Sur le ventre. C'est une position qui disparaît progressivement avec l'âge et qu'on ne voit plus du tout à l'âge adulte chez quelqu'un qui dort. Lorsqu'on est sur le ventre, il faut soulever le corps afin de respirer, ce qui demande un effort. Sur le côté. En général, c'est la meilleure position. Elle permet de rester sans bouger du début de la nuit jusqu'à la descente dans le sommeil lent profond. De plus, la circulation cardiaque est facilitée lorsqu'on est sur le côté. Sur le dos. C'est une mauvaise posture puisqu'on est beaucoup plus susceptible de ronfler en étant sur le dos. Les voies respiratoires sont bloquées par le cou. Elles favorisent aussi l'apnée du sommeil. En général, ceux qui s'endorment sur le dos vont finir par se tourner sur le côté. Conseil pour mieux dormir. Des experts interrogés par le USA Today suggèrent les stratégies suivantes pour bénéficier d'un meilleur sommeil. Source: USA Today, Clinique Mayo, Sleep Foundation, National Institute of Health. Avant d'aller au lit, s'accorder une période de détente, par exemple en méditant, en prenant un bain chaud ou en faisant un peu de lecture. Établir un espace de sommeil sombre, frais, confortable et silencieux. Se lever et se coucher aux mêmes heures. Utiliser de la literie légère pour permettre au corps de perdre de la chaleur durant la nuit. Éviter l'alcool, la caféine, la nourriture et les appareils électroniques avant de se coucher. Faire des étirements avant de se coucher et en se levant le matin pour relaxer les muscles. C'était « En position pour bien dormir », un texte de Jean-Philippe Arcan, paru le 12 janvier 2025 dans La Presse.